Vous écoutez RFI, il est 13h en temps universel, 15h à Paris.
Léonard Vincent.
À la une de cette édition, l'exode continue des réfugiés arméniens du Haut-Karabakh. Une file ininterrompue de voitures se presse depuis plusieurs jours sur la route menant en Arménie. Tous disent craindre pour leur vie et laissent l'essentiel de leurs biens derrière eux. Nous ferons le bilan avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde, de la visite de 4 jours du commissaire européen au commerce en Chine. Les sujets de désaccord étaient nombreux. Et puis c'était hier le 6e anniversaire du référendum d'indépendance du Kurdistan. Un anniversaire au goût amer pour les dirigeants kurdes. Un demi-échec et peu d'impact sur le terrain. Et puis nous lirons avec Anoushka Kumor le dernier rapport plutôt optimiste de l'Agence internationale de l'énergie. Selon l'AIE, les objectifs climatiques peuvent être atteints mais à un prix élevé. Nous le verrons à la fin de ce journal. Face à la menace de l'armée azerbaïdjanaise, l'exode des réfugiés du Haut-Karabakh vers l'Arménie s'intensifie. Tous les réfugiés disent craindre pour leur vie et ils ont emporté ce qu'ils pouvaient avec eux. Depuis 3 jours, au moins 13 000 civils ont ainsi quitté leur maison en voiture ou en autobus. Et ceux qui ne sont pas encore arrivés à destination se pressent en ce moment même sur la route menant de l'enclave en territoire azerbaïdjanais où ils habitaient jusqu'à l'Arménie voisine. Et cet exode entraîne nécessairement une crise humanitaire. Écoutez Taline Papazian, docteure en sciences politiques et directrice de l'ONG Armenia Peace Initiative. Elle était au micro de Margot Ratézic.
Ils décrivent tous une situation humanitaire qui est catastrophique puisque cela fait 9 mois qu'ils étaient soumis à un blocus. Donc il y a les privations physiques, il y a les privations en santé, il y a évidemment l'impact psychologique qui est énorme. Et puis nous avons là des gens qui sont obligés de quitter leur patrie plurimillénaire, donc qui sont dans une situation de stress et de trauma indescriptible. Beaucoup de familles sont encore séparées. Il y a souvent des hommes qui manquent dans ce recensement des familles et on est évidemment très inquiet de ce que les hommes deviennent, même si ces dernières heures, ils ont pu commencer à entrer. Les informations les plus inquiétantes circulent parce que beaucoup de ces hommes ont été obligés de déclarer avant de pouvoir entrer en Arménie qu'ils faisaient partie des forces armées arméniennes. Donc on comprend aussi que c'est une manière d'une part de leur interdire tout retour possible sur la base d'une fausse déclaration extorquée dans la situation qui est la leur et puis d'autre part aussi de planter des mines pour pouvoir ensuite accuser l'Arménie d'avoir maintenu des forces armées arméniennes en territoire azerbaïdjanais, ce qui n'était plus le cas depuis déjà 2 ans.
C'était Taline Papazian, directrice de l'ONG Armenia Peace Initiative, au micro de Margot Ratézic. Et puis notez en effet qu'une source gouvernementale azerbaïdjanaise a fait savoir aujourd'hui à l'AFP que l'Azerbaïdjan était à la recherche de criminels de guerre parmi les réfugiés arméniens fuyant le Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan a l'intention d'amnistier les combattants arméniens qui ont déposé les armes, a déclaré cette source. Mais ceux qui ont commis des crimes de guerre, a-t-elle ajouté, pendant les guerres du Haut-Karabakh, doivent nous être remis. C'est pourquoi, a-t-elle conclu, les hommes en âge de combattre sont filmés au dernier point de contrôle avant de quitter le territoire. Une nouvelle vague de bombardements a eu lieu cette nuit dans le sud de l'Ukraine. C'est surtout la région d'Odessa qui a subi une nouvelle attaque aérienne nocturne. 38 drones de fabrication iranienne sont entrés en opération, notamment contre le port d'Izmaïl sur le Danube, à la frontière de la Roumanie, selon l'armée de l'air ukrainienne. L'assaut aérien a duré 2 heures, d'après le gouverneur de la région. D'autres opérations aériennes russes ont également été signalées dans les régions de Kherson et de Dniepropetrovsk. L'Europe et la Chine ont parlé commerce pendant 4 jours. Le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a achevé aujourd'hui une visite officielle à Pékin. Une visite au cours de laquelle il a voulu faire passer aux dirigeants chinois, a-t-il dit, des messages clés. Ces 4 jours en Chine du haut fonctionnaire européen se sont déroulés au moment où les contentieux entre Bruxelles et Pékin se sont multipliés ces derniers mois. Compte rendu de cette visite à Pékin de notre correspondant Stéphane Lagarde.
Valdis Dombrovskis n'est visiblement pas un adepte de la punchline. Son style, c'est le déroulé des arguments sur un ton monocore de façon rouleau à bitume. Une approche affirmée dans une Chine dont les pratiques commerciales déloyales contraignent l'Union européenne à réagir. Ce n'est pas une question de changement de rhétorique, ce sont les faits et le contexte qui ont changé, à commencer par le déficit commercial. Valdis Dombrovskis en conférence de presse ce matin.
Il est évident que l'augmentation dramatique du déficit commercial avec la Chine ces dernières années, ces 400 milliards d'euros qui ont fait les gros titres, nous ont contraints à regarder de plus près ce qu'il y avait derrière cette augmentation rapide. Deuxième inquiétude, la Chambre de commerce européenne en Chine a publié un sondage récemment dans lequel 2/3 des entreprises européennes affirment que les affaires sont devenues plus difficiles avec la Chine.
Au cours de ces 4 jours en Chine, confie encore le responsable letton, tous mes interlocuteurs sont revenus sur l'enquête lancée sur le soutien de l'État chinois aux constructeurs de véhicules électriques qui inondent le marché européen. En 2 ou 3 ans, la part des marques chinoises de véhicules électriques sur le marché européen est passée de moins de 1% à 8%, une croissance exponentielle qui, si elle perdure, dit-il, pourrait porter préjudice à l'industrie européenne. Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
Et puis toujours en Asie, notez ce rapport de l'ONU accablant sur la Birmanie qui est paru aujourd'hui. Le pays s'enfonce dans une spirale sans fin de violence militaire, selon les conclusions de ce rapport. La junte militaire birmane a de plus en plus recours aux tueries de masse et aux frappes aériennes. D'après les 160 entretiens qu'a menés entre avril 2022 et juillet 2023 le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, une guerre particulièrement barbare se mène loin des regards et même les groupes de résistance au pouvoir sont impliqués dans des meurtres de civils accusés de collaborer avec le régime militaire, dit encore l'ONU. Mais ces exécutions sont sans commune mesure, ajoute l'ONU, avec les violations commises par l'armée. C'était le 6e anniversaire hier, lundi, du référendum sur l'indépendance du Kurdistan. Et à cette occasion, les dirigeants du Parti démocratique du Kurdistan, dont le Premier ministre, ont assisté aux cérémonies d'anniversaire. Mais selon certains, derrière ces célébrations se dissimule en réalité un bilan amer, correspondant à sa Bagdad de Marie-Charlotte Roupy.
Le 25 septembre 2017, le oui l'emportait à près de 93%. Le Kurdistan irakien et les régions passées sous contrôle kurde durant la guerre contre Daesh ont voté pour prendre leur indépendance. La communauté internationale et Bagdad rejettent le scrutin, la victoire se transforme vite en échec. Hardy Med, spécialiste de l'Irak.
À ce moment-là, comme les Kurdes ont perdu le soutien international, cela a permis à Bagdad de récupérer tous les territoires disputés. D'un seul coup, les Kurdes ont perdu 30% d'un territoire qu'ils considèrent comme partie intégrante de la région. Il y a un retour de l'État après les référendums dans la région kurde.
Étape par étape, l'autonomie du Kurdistan irakien n'a depuis cessé de reculer. Cette année, sur un dossier majeur, le pétrole, manne financière pour le Kurdistan jusqu'ici.
Dorénavant, la gestion de dossiers pétroliers appartient à Bagdad. Le gouvernement régional est devenu entièrement dépendant de l'État fédéral économiquement. Aujourd'hui, par exemple, sans l'État fédéral, le gouvernement régional n'est pas vraiment en mesure de payer le salaire de ses fonctionnaires.
En parallèle, les divisions entre factions kurdes rivales se poursuivent. Au Kurdistan irakien, les discours pour l'indépendance se font rares aujourd'hui. Marie-Charlotte Roupy, Bagdad RFI.
Et puis enfin, ce constat de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, dans son rapport annuel publié aujourd'hui. Selon l'AIE, les pays riches et les pays en développement peuvent peut-être atteindre leurs objectifs en termes de lutte contre le réchauffement climatique, mais si et seulement si ils accélèrent leur politique de décarbonation. Agnieszka Kumor.
Le rapport de l'AIE est une actualisation de sa Net Zero Roadmap, une feuille de route pour la neutralité carbone en 2050, dont la publication en 2021 avait marqué les esprits. 2 ans plus tard, les progrès sont bien là, notent les auteurs du rapport. En témoigne l'essor rapide de l'électricité issue de l'énergie solaire ou la progression des véhicules électriques. Voilà ce qui met à portée de main les objectifs climatiques de l'accord de Paris en 2015. problème. Durant la même période, les émissions du secteur de l'énergie sont restées obstinément élevées. Il faut donc faire plus. Les économies développées, États-Unis et UE en tête, doivent avancer de 5 ans, c'est-à-dire de 2050 à 2045, leur objectif de neutralité carbone afin de rester dans les clous de l'accord de Paris. Pour la Chine, il faudra qu'elle avance ses engagements de 10 ans pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Le moindre retard touchera très durement les populations vulnérables, car au-delà de 2100, le retour en arrière ne sera plus possible.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. La formation continue sur RFI.